Chapitre 50e et dernier. Arrivé à Sinigalia, à 3 postes d'Ancône, mon voiturin vint me trouver à l'instant où je me couchais pour me demander si je voulais lui permettre de prendre dans la calèche un juif qui se rendait également à Ancône. Dans le premier mouvement, je lui répondis d'un ton aigre que je ne voulais personne et bien moins un juif que tout autre. Le voiturin sortit, mais un je ne sais quoi me dit « Tu dois prendre ce pauvre Israélite ». Et malgré la répugnance qui m'avait fait dire non, je rappelai le bonhomme et je lui dis que je le prendrais. Quand nous fûmes arrivés au dîner, j'invitai le juif à s'asseoir à ma table, mais il me répondit que sa religion le lui défendait et qu'à cause de cela, il ne mangerait que des œufs, des fruits et du saucisson de foie d'oie qu'il avait dans sa poche. Superstitieux, il ne but que de l'eau parce qu'il n'était point sûr que le vin fût pur. « Animal, lui dis-je, pouvez-vous jamais en être sûr, à moins de le faire vous-même, et vous ne cultivez pas la vigne ?» Lorsque nous nous fûmes remis en route, il me proposa de loger chez lui si je me contentais des mets que Dieu n'a point défendus. Il me promit de me faire traiter plus délicatement et plus somptueusement qu'à l'auberge, que j'y serais à meilleur marché et tout seul, dans une belle chambre ayant vue sur la mer. Vous logez donc des chrétiens ? Je ne loge personne, mais je ferai une exception pour vous. Vous ne me paierez que 6 paoli par jour, et vous serez bien servi à dîner et à souper, le vin excepté. Mais vous me ferez préparer tous les poissons que j'aime et dont je pourrais avoir envie. Bien entendu que je les paierai à part, ainsi que le vin. Volontiers. J'ai une cuisinière chrétienne et ma femme d'ailleurs est toujours attentive à la cuisine. Je descendis donc chez le juif, trouvant le cas fort singulier, en pensant que si je n'y étais pas bien, j'en sortirais le lendemain. Sa femme et ses enfants l'attendaient et l'accueillirent avec empressement pour célébrer le sabbat. Dans ce jour consacré au Seigneur, toute œuvre servile étant interdite, je remarquai avec plaisir un air de fête dans les physionomies, dans l'habillement et un certain luxe de propreté dans toute la maison. On me fit un accueil fraternel et j'y répondis de mon mieux, mais une seule parole de maître Mardoquet, c'était son nom, changea cette politesse de sentiment en politesse d'intérêt. Mardoquet me fit voir 2 chambres pour que je choisisse celle qui me plairait le mieux, et les trouvant toutes 2 à ma convenance, je lui dis que je les prenais l'une et l'autre, en ajoutant 1 paolo par jour au prix convenu, ce dont il fut fort content. Mardoquet ayant, en 2 mots, mis sa femme au fait de tout, elle ordonna à sa servante chrétienne de me servir et de me préparer à souper. Ayant fait porter mes effets dans ma chambre à coucher, je me fis un plaisir d'aller à la synagogue avec Mardoquet, qui étant devenu mon hôte, me paraissait un autre homme. En quittant la synagogue, je me dirigeai seul vers la bourse, me livrant à des réflexions, toujours tristes, quand elles ont pour objet un temps passé heureux dont on ne peut espérer le retour. Quand je rentrais, je trouvai Mardoquet entouré de sa nombreuse famille composée de 11 à 12 individus, au nombre desquels était sa mère, âgée de 90 ans, et qui se portait fort bien. J'y remarquai un autre juif d'un certain âge, c'était le mari de sa fille aînée, qui ne me parut pas jolie, mais sa cadette, destinée à un juif de Pesaro qu'elle n'avait jamais vu, captiva toute mon attention. Lui ayant dit que si elle n'avait jamais vu son mari futur, elle ne pouvait pas en être amoureuse. Elle me répondit d'un ton très sérieux qu'il n'était nullement nécessaire d'être amoureux pour se marier. La vieille loua hautement la prudence de sa petite fille, et sa mère ajouta qu'elle n'était devenue amoureuse de son époux qu'après ses premières couches. Je nommerai cette jolie juive Lia, ayant des raisons pour ne pas la nommer de son nom véritable. Pendant leur repas, m'étant assis auprès d'elle, je m'évertuais à lui dire des choses agréables pour la faire rire, mais peine perdue, elle ne daigna pas même me regarder. Je trouvai un souper exquis auquel je fis honneur et un lit excellent. Le lendemain, mon hôte vint me dire que je pourrais donner mon linge à la servante et que Lia aurait soin de me l'apprêter. Je le prévins que j'avais trouvé le souper maigre fort bon, mais qu'ayant le privilège de manger gras et maigre tous les jours, je le priai de ne pas oublier les foies d'oie. Vous en aurez demain, mais dans ma famille il n'y a que Lia qui en mange. Ce sera donc Lia qui en mangera avec moi, et dites-lui que je lui donnerai du vin de Chypre très pur. Je n'en avais pas, mais j'en demandai le matin même au consul de Venise, auquel j'allais porter la lettre de M. Dandolo. Le lendemain, ayant donné mon linge à la servante, je vis paraître Lia qui venait s'informer comment je voulais qu'elle lavât mes dentelles. Lia, avec ses 18 ans, se montrant spontanément devant moi, sans fichu, en simple corset très échancré, et laissant voir une gorge magnifique, se serait aperçu de la vive émotion qu'elle me causa si elle m'avait regardé. M'étant remis, je lui dis que je m'en rapportais à elle, qu'elle eût soin de tout et de croire que je ne visais pas au bon marché. « J'en aurai donc soin toute seule, si vous n'êtes pas pressée. Vous serez la maîtresse de me faire rester chez vous tant que vous voudrez, » lui dis-je. Elle eut l'air de ne pas faire la moindre attention à cette déclaration. « Je suis content de tout ici, » lui dis-je, « excepté de mon chocolat que j'aime battu et bien mousseux. » « Pour que vous soyez satisfait, je le ferai moi-même. Dans ce cas, aimable Lia, je vous donnerai double portion, et nous le prendrons ensemble. Je ne l'aime pas. J'en suis mortifié. Mais vous aimez les foie d'oie ? Beaucoup. Et aujourd'hui, j'en mangerai avec vous, à ce qu'on m'a annoncé mon père. Voilà qui me fait grand plaisir. Vous craignez sans doute d'être empoisonné. Bien loin de le craindre, je désire que nous mourions ensemble. » La friponne, affectant de ne rien comprendre, s'en alla et me laissa plein de désirs. Je sentis que, d'après le feu que cette belle juive commençait à m'inspirer, je devais me dépêcher de m'assurer d'elle dans la journée, ou dire au père de ne plus l'envoyer dans ma chambre. La juive que j'avais connue à Turin m'avait assez instruit sur la façon dont les femmes de cette religion étaient amoureuses. Selon moi, Lia devait être plus belle et encore moins difficile qu'elle, car la vie galante d'Ancône ne pouvait ressembler en rien à celle de Turin. C'est ainsi que raisonne un roué, mais son raisonnement n'est pas infaillible. On me servit à dîner à la mode juive, et Lia, ayant apporté elle-même un foie d'oie superbe, s'assit en face de moi, mais elle avait sa belle gorge couverte d'un fichu de mousseline. Le foie était exquis. Nous l'arrosâmes d'abondantes libations de scopolo, que Lia trouva encore meilleur que les mets. Quand le foie fut fini, Lia voulut s'en aller, mais je m'y opposais, car nous n'étions qu'à la moitié du dîner. « Je resterai, me dit-elle, mais je crains que mon père ne le trouve mauvais. »« Bien, appelez votre maître, » dis-je à la servante qui entrait dans ce moment. « J'ai un mot à lui dire. »« Mon cher Mardoquet, l'appétit de votre fille redouble le mien, et vous m'obligerez en lui permettant de manger avec moi chaque fois que nous aurons du foie d'oie. »« Je ne trouve pas mon compte à ce que ma fille double votre appétit, mais si vous les payez double, je ne m'oppose point à ce qu'elle vous tienne compagnie. »« Cela me plaît beaucoup, et j'accepte. Vous aurez chaque jour un teston de plus. » Pour lui témoigner ma satisfaction, je lui fis présent d'un flacon de scopolo que Lia lui garantit très pur. Nous dînâmes donc ensemble, et la voyant égayée par le vin, qui, étant très diurétique à cause de l'odeur du goudron, a de merveilleux effets pour l'amour, je lui dis que ses yeux m'enflammaient et qu'elle devait me permettre de les baiser. Mon devoir me défend de vous le permettre. Point de baiser, aucun attouchement, me dit-elle. « Mangeons et buvons ensemble, mon plaisir sera égal au vôtre. »« Vous êtes cruel. »« Je dépends de mon père et ne suis maîtresse de rien. »« Faut-il que je prie votre père de vous permettre d'être complaisante ?»« Cela ne serait pas honnête, et il se pourrait que mon père, se trouvant offensé, ne me permît plus de venir chez vous. »« Et s'il vous disait que vous ne devez pas être scrupuleux sur ces bagatelles, je le mépriserais et continuerai à faire mon devoir. » Une explication si claire me fit juger qu'elle ne serait pas facile, et qu'en m'obstinant, je pourrais m'embarquer dans une intrigue dont je ne pourrais pas voir la fin, ce qui ne me procurait que des regrets. Je réfléchis aussi que je courais le risque de négliger ma principale affaire, qui ne me permettait point de faire un long séjour en Ancône. Toutes ces réflexions m'étant venues en une seconde, je ne dis plus rien à Lia sur ce chapitre, et le dessert étant venu, je servis à ma belle juive du muscat de Chypre, qu'elle déclara le nectar le plus délicieux qu'elle eût bu de sa vie. La voyant échauffée par la boisson, il me sembla impossible que Vénus n'exerçât pas sur ses sens autant d'empire que Bacchus. Mais sa tête était forte, son sang s'enflammait, mais sa raison restait froide. Cependant, secondant sa gaieté, après le café, je lui pris la main pour la lui baiser. Impossible. Son refus fut tel qu'il ne pouvait me déplaire, car elle me dit « C'est trop pour l'honneur et trop peu pour l'amour. » Cette saillie spirituelle me fit plaisir, et d'autant plus qu'elle me mit à même de juger qu'elle n'était point novice. Remettant l'exécution de mon projet au lendemain, je lui annonçai que je souperais chez le consul de Venise et qu'ainsi on ne préparait rien pour le soir. Le consul m'avait prévenu qu'il ne dînait pas, mais que toutes les fois que je voudrais aller souper avec lui, je lui ferais un grand plaisir. Il était minuit quand je rentrais. Tout le monde dormait au logis, excepté la servante, qui m'attendait que je récompensais, de manière à lui faire désirer que je rentrasse aussi tard tous les jours. Désirant connaître les habitudes de Lia, je la mis sur son chapitre, et elle ne m'en dit que du bien. À l'entendre, Lia était une bonne fille, qui travaillait toujours, que toute la famille chérissait, et qui n'avait jamais écouté un amoureux. Quand bien même Lia l'aurait payée, la servante n'aurait pas mieux fait son éloge. Le matin, Lia va me porter mon chocolat et s'assit sur mon lit. Elle était devant moi, comme la veille, et ses deux globes à demi nus me désolaient. « Ignorez-vous, lui dis-je, que vous avez la gorge superbe ? Mais toutes les jeunes filles ont la gorge faite comme moi. Ne vous doutez-vous pas qu'en la voyant, j'éprouve un plaisir extrême ? Si cela est, j'en suis bien aise. Car en vous laissant jouir de ce plaisir, je n'ai rien à me reprocher. » D'ailleurs, une fille ne cache pas sa gorge plus que son visage, à moins d'être en grande compagnie. En me parlant ainsi, la friponne regardait un cœur d'or traversé d'une flèche et entouré de petits brillants qui joignaient le jabot de ma chemise. « Trouvez-vous ce petit cœur joli ? » lui dis-je. « Charmant. Est-il fin ? » ?»« Certainement. Et c'est cela qui m'encourage à vous l'offrir. » En disant cela, je détachai l'épingle. Mais elle me dit avec douceur, et en me remerciant qu'une fille qui ne voulait rien donner ne devait rien accepter. « Acceptez-le, et je vous jure de ne jamais vous demander la moindre faveur. Mais moi, je me reconnaîtrai votre débitrice. Ainsi, je ne recevrai jamais rien. » Je vis alors qu'il n'y avait rien à faire, ou qu'il faudrait faire trop pour obtenir quelque chose, et que dans l'un ou l'autre cas, le mieux était d'en prendre mon parti. Je rejetai avec dédain toute une brutalité qui aurait pu la fâcher ou la faire rire à mes dépens. Cela m'aurait dégradé ou rendu plus amoureux en pure perte. S'il s'était trouvé offensé, elle ne serait plus venue, et je n'aurais pas eu le droit de m'en plaindre. Je pris donc la résolution de tenir en frein mes avides regards et de ne plus l'amuser de propos amoureux. Nous dînâmes fort gaiement. On me servit des coquillages que la religion mosaïque défend. La servante étant présente, j'engageai Lia à les manger avec moi, mais elle reçut mon invitation avec horreur. Dès que la servante fut sortie, elle en prit d'elle-même, en mangea avec une volupté surprenante, tout en m'assurant que c'était pour la première fois de sa vie qu'elle goûtait à ce plaisir. Cette fille, me dis-je à moi-même, qui viole sa loi avec tant de facilité, qui aime le plaisir avec transport, qui ne me cache point la volupté avec laquelle elle le savoure, cette fille prétend me faire croire qu'elle est insensible à celui de l'amour et qu'elle peut le vaincre en le traitant de bagatelle. Cela n'est pas possible. Elle ne m'aime pas, ou elle ne m'aime que pour se divertir en excitant mon amour. Il faut qu'elle ait des ressources pour apaiser les inclinations de son tempérament, que je juge très libertin. « Je verrai, me dis-je, si ce soir je puis en venir à bout, à l'aide de mon excellent muscat. » Mais le soir, elle s'excusa de manger et de boire, disant que cela l'empêchait de dormir. Le lendemain, elle vint m'apporter mon chocolat. Mais elle avait couvert sa belle gorge d'un fichu blanc. À son ordinaire, elle s'assit sur mon lit, et moi, rejetant l'idée battue et rebattue de faire semblant de ne m'apercevoir de rien, je lui dis d'un air triste qu'elle n'était venue avec la gorge couverte que parce que je lui avais dit que je la voyais avec plaisir. Elle me répondit avec une aimable nonchalance qu'elle n'y avait pas pensé et qu'elle avait pris un fichu parce qu'elle n'avait pas eu le temps de mettre son corset. « Vous avez bien fait, lui dis-je alors en riant, car il aurait pu arriver que, voyant votre gorge toute entière, je ne l'eusse plus trouvée si belle. » Elle ne répondit rien, et j'achevai mon chocolat. Me souvenant que j'avais des miniatures et estampes lascives dans ma cassette, je priai Lia de me la donner, lui disant que je voulais lui faire voir des portraits des plus belles gorges de l'univers. « Cela ne m'intéressera pas, me dit-elle. » Mais elle me tendit la cassette et se remit sur mon lit comme auparavant. Je pris le portrait d'une femme nue, couchée sur le dos, en train de se faire illusion avec les doigts, et la couvrant de mon mouchoir jusqu'à l'estomac. Je la lui fis voir, la tenant dans ma main. « Mais, me dit Lia, voilà une gorge comme toutes les autres. Vous pouvez bien ôter votre mouchoir. Tenez, prenez car cela me dégoûte. C'est bien peint, dit-elle, en faisant un éclat de rire, mais cela n'a rien de nouveau pour moi. Comment, rien de nouveau pour vous? Non, certes, car c'est là le manège que font toutes les jeunes filles avant de se marier. Vous le faites donc aussi. Toutes les fois que l'envie m'en vient. Faites-le donc maintenant. Une fille bien élevée ne le fait qu'en cachette. Et que faites-vous ensuite? Si c'est au lit, je m'endors. Ma chère Lia, votre sincérité m'enchante et me pousse à bout. Vous avez trop d'esprit pour l'ignorer. Soyez donc bonne et complaisante, ou cessez de venir me voir. Vous êtes donc si faible. Oui, parce que je suis fort. À l'avenir donc, nous ne nous verrons qu'à dîner. Mais faites-moi voir quelques autres miniatures. J'ai des estampes qui ne vous plairont pas. Voyons. Je lui donnai alors le recueil des figures de l'Arétin, et j'admirai l'air tranquille, mais attentif avec lequel elle les examinait, passant de l'une à l'autre, et revenant sur celles qu'elle avait déjà examinées. « Trouvez-vous cela intéressant ? » lui dis-je. « Beaucoup, et c'est fort naturel. Mais une honnête fille ne doit pas s'arrêter à regarder tout ceci, car vous sentez bien que ces habitudes voluptueuses doivent causer une vive émotion. Je le crois, Bellia, et je l'éprouve comme vous, voyez. » Elle sourit, se leva, et alla regarder le livre auprès de la fenêtre, me tournant le dos et ne répondant point à mon appel. Après m'être calmé comme un pauvre écolier, je m'habillai, presque honteux, et le perruquier étant venu, Lia sortit en me disant qu'elle me rendrait mon livre à dîner. Je tressaillis de joie, croyant la tenir. Sinon le jour même, tout au plus tard le lendemain, car le premier pas était fait, mais j'étais encore loin du compte. Nous dînâmes bien et bûmes encore mieux. Au dessert, Lia tira le livre de sa poche et me mit tout en feu en me réclamant des commentaires, mais en m'empêchant, sous menace de s'en aller, de faire la démonstration qui aurait animé la glose, qui n'était faite que pour les yeux, et dont, probablement, j'avais beaucoup plus besoin qu'elle. Impatienté, je lui pris le livre, et j'allai me promener, comptant sur l'heure du chocolat. Quand cette cruelle juive revint le matin, elle prétendit avoir besoin d'explications, mais que, si je voulais lui faire plaisir, je devais les lui donner, l'estampe à la main, sans mettre en jeu rien de vivant. « Volontiers, lui dis-je, mais à condition que vous résoudrez toutes les questions qui regardent votre sexe. « Je vous le promets, mais si nos observations ne roulent que sur ce qui est dessiné. » Notre leçon dura 2 heures, pendant lesquelles je maudis 100 fois l'Arétin, et la folle idée que j'avais eue de la rendre curieuse, car l'impitoyable femelle me menaçait de partir chaque fois que je faisais la moindre tentative. Mais tout ce que cette fille me dit sur son sexe, et que je pouvais faire semblant d'ignorer, me mit à la torture. Elle me lâchait les vérités les plus lubriques, et m'expliquait si vivement les mouvements externes et internes qui devaient se développer dans l'exécution des accouplements dont nous avions l'image sous les yeux, qu'il me semblait impossible que la théorie seule pût la faire raisonner si juste. Ce qui achevait de me séduire, c'est qu'aucune pudeur n'obscurcissait la lumière de ses sublimes doctrines. Elle philosophait sur ces points beaucoup plus naturellement et plus savamment qu'Edwige de Genève. Son esprit était si bien d'accord avec son individu qu'il en résultait une harmonie parfaite. Je lui aurais volontiers donné tout ce que je possédais pour couronner son prodigieux talent par le grand exploit. Elle me jura qu'elle ne savait rien par pratique. Elle me parut digne de foi quand elle me fit la confidence qu'il lui tardait d'être marié pour savoir enfin ce qu'il y avait de vrai dans ses prénotions. Elle s'attrista, ou en fit semblant, quand je m'avisai de lui dire que l'époux qu'un père lui avait destiné serait peut-être un homme assez mal partagé de la nature pour ne lui rendre ses devoirs de mari qu'une fois par semaine. « Quoi ? » me dit-elle d'un air alarmé. « Les hommes ne sont donc pas tous égaux entre eux, comme le sont les femmes ? Comment entendez-vous cette égalité ? Ne peuvent-ils pas être amoureux chaque jour, et à chaque instant, comme il faut que chaque jour ils mangent, boivent et dorment ? Non, ma chère Lia, ceux qui peuvent être amoureux chaque jour sont rares. » Irrité aussi cruellement que je l'étais chaque jour, j'enrageais qu'il n'y eût pas à Ancon un endroit décent où un homme, comme il faut, puisse se procurer une jouissance sûre pour son argent. Je tremblais en voyant que je devenais tout de bon amoureux de Lia, et je disais tous les jours au consul que je n'étais pas pressé de partir. Je faisais des paralogismes comme un céladon de 20 ans. Il me semblait que Lia était la plus vertueuse de toutes les filles, puisqu'avec des passions ardentes, un besoin dominant de jouissance, un esprit mûri de réflexion sur le commerce des deux sexes, elle se refusait à compléter ses connaissances. Je la regardais comme un modèle de vertu, et c'était d'après elle que je définissais la vertu. Elle était toute vérité, sans la moindre hypocrisie, sans nulle imposture. Inséparable de sa nature, elle ne satisfaisait à ses désirs que par sa propre main, s'interdisant les jouissances prohibées par la loi à laquelle elle voulait être fidèle, malgré le feu qui la consumait. Il ne tenait qu'à elle de se rendre heureuse, et elle résistait des heures entières, en tête à tête avec un homme ardent, assez forte pour ne rien permettre qui pût la soulager. Oh, la vertueuse Lia! Elle s'exposait tous les jours à la défaite et ne l'empêchait qu'en ne faisant jamais le premier pas. Ni voir, ni toucher, tel était son grand bouclier. On verra à quoi aboutissait toute cette vertu que lui prêtait mon esprit fanatisé. Au bout de 9 ou 10 jours, je commençais à devenir violent avec elle, violent non pas en action mais en éloquence. Elle était mortifiée, avouait que j'avais raison, qu'elle ne savait que répondre, et concluait que je ferais sagement de lui défendre de se présenter à moi le matin. À dîner sur Noël, nous ne risquions rien. Je me déterminai à la prier de venir, mais la gorge voilée, et sans plus parler de rien qui eut rapport avec l'amour. Volontiers, mais, ajouta la friponne en riant, je ne serai pas la première à rompre les conditions. Je ne voulus pas y rompre de mon côté, car 3 jours après, las de souffrir, j'annonçai au consul que je partirais à la première occasion. Et ma résolution était d'autant plus sincère que, croyant connaître Lia, sa gaieté me faisait perdre mon appétit. Je me voyais ainsi privé de mon second bonheur sans avoir la perspective de m'assurer la jouissance du premier. Ma déclaration au consul me liant en quelque sorte, je m'étais couché assez tranquille. Cependant, contre mon habitude, vers les 2 heures après minuit, j'eus besoin d'aller faire un sacrifice à la nymphe Cloacine, et je sortis sans lumière, les êtres de la maison m'étant familiers. Le temple était au rez-de-chaussée. Étant descendu en pantoufles très légères, et ne voulant déranger personne, je ne fis pas le moindre bruit. En remontant, je vis sur le premier palier et au travers d'une légère fente, de la lumière dans une petite chambre que je savais inoccupée. Je m'en approchai, sans songer aucunement que Lia pût y être à cette heure. Mais qu'on juge de ma surprise, quand mon œil plongeant sur un lit, j'aperçus Lia toute nue, en compagnie d'un jeune homme, nu comme elle, et travaillant tous les deux de leur mieux à faire les postures de l'arétin. Ils se parlaient à voix basse, et à chaque 4 ou 5 minutes, ils me donnaient le spectacle d'un nouveau tableau. Ces divers changements de posture me firent voir toutes les beautés de Lia, et ce plaisir modérait la rage que me faisait éprouver l'idée d'avoir pu prendre pour vertueuse cette libertine fiéfée. Il ne me fut pas difficile de m'apercevoir que chaque fois qu'ils arrivaient au point d'achever la grande besogne, ils s'arrêtaient et complétaient l'œuvre avec leurs mains. À la figure de l'arbre droit, à mon avis la plus libidineuse de celles qu'a pu inventer le génie impudique de l'arétin, Lia se comporta en vraie lesbienne, car pendant que le jeune homme excitait sa rage amoureuse, elle s'empara de son histoire et, l'avalant tout entière, elle le magnétisa jusqu'à ce que l'offrande fût consommée. Ne l'ayant point vu cracher, je ne pus douter qu'elle ne se fût nourrie du nectar de mon heureux rival. L'Adonis lui montra alors l'instrument affaibli, et Lia, l'air demi-heureuse, demi-dolente, semblait regretter son trépas. Bientôt il se mit en position de lui rendre la vie, mais le lâche regarda sa montre, la repoussa et mit sa chemise. Lia était visiblement outrée et posée devant lui dans la posture d'une belle Vénus. Elle ne se résolut à se couvrir qu'après lui avoir parlé d'une manière qui me fit deviner qu'elle lui adressait des reproches. Quand je vis qu'ils étaient presque habillés, je montai doucement dans ma chambre et me mis à une fenêtre qui donnait sur la porte de la maison. J'y étais en sentinelle depuis peu de minutes quand j'en vis sortir le bienheureux amant. Je me recouchai, non pas charmé de me voir désabusé, mais indigné, avili. En Lia, je ne voyais plus qu'une effrénée prostituée qui me haïssait. Je m'endormis avec l'intention de la chasser de ma chambre après lui avoir conté la scène lubrique dont le hasard m'avait rendu témoin. Les résolutions que l'homme prend dans sa colère, ou même dans un moment de dépit, ne sont guère à l'épreuve de quelques heures de sommeil. Dès que je vis paraître Lia avec mon chocolat, l'air gai et affable, j'accommodai ma physionomie au diapason de la sienne, et je lui dis avec beaucoup de calme tout ce que j'avais vu de ses exploits nocturnes pendant la dernière heure de son orgie, appuyant sur la vue de l'arbre droit et sur la liqueur qu'elle avait avalée. Je finis par lui dire que j'espérais qu'elle m'accorderait la nuit suivante la même chose pour couronner mon amour et pour s'assurer de mon secret. Elle me répondit d'un air intrépide que je ne pouvais espérer d'elle aucune complaisance, parce qu'elle ne m'aimait pas et que pour ce qu'il s'agissait du secret, elle me défiait de le divulguer par esprit de vengeance. « Je suis certaine, ajouta-t-elle, que vous êtes incapable d'une pareille noirceur. » En achevant ces mots, elle me tourna le dos et sortit. Réfléchissant au caractère singulier de cette fille, je fus forcé de m'avouer à moi-même qu'elle avait raison. Je sentis qu'effectivement, j'aurais commis là une faute noire, mais j'étais bien loin de songer à la commettre et je n'y pensais déjà plus. Elle m'avait mis à la raison en peu de mots. « Je ne vous aime pas. » C'était sans réplique, et dès lors elle ne me devait rien, et je ne pouvais prétendre à rien. Il me sembla au contraire que c'était à elle à se plaindre de moi. car quel droit avais-je de l'espionner? J'en avais encore moins de l'insulter en dévoilant des faits que je n'aurais jamais appris sans une curiosité indiscrète et que rien ne rendait licite. Je ne pouvais point l'accuser de m'avoir trompé. De quoi pouvais-je me plaindre? Elle avait disposé d'elle-même, mais ne s'appartenait-elle pas? Et moi, à la place de l'amant préféré, l'aurais-je trouvé répréhensible? Tous droits égaux, je devais me taire. Je m'habillai à la hâte et me rendis à la bourse où je trouvai une péote qui partait pour Fiume le même jour. Fiume est de l'autre côté du golfe, vis-à-vis d'Ancône. M'étant rendu au port, ayant vu la péote et parlé au patron, je sus que le vent était en poupe et que le lendemain matin nous serions au moins dans le canal. J'arrêtai la meilleure place, puis j'allai prendre congé du consul, je payai Mardoquet et fis mes mal. Lia, ayant su par son père que je partais le même jour, vint me dire qu'il lui était impossible de me remettre mon linge, mes dentelles et mes bas de soie dans la journée, ajoutant qu'elle pourrait me rendre le tout le lendemain. « Votre père, lui dis-je, de l'air le plus calme, pourra remettre le paquet au consul de Venise, qui aura soin de me l'envoyer à Trieste. » Au moment de me mettre à table, le patron de la péote vint avec un matelot prendre mes effets. Je lui remis ma malle qui était prête, lui disant que le reste irait à bord avec moi à l'heure qu'il voudrait partir. « Monsieur, je me propose de mettre à la voile une heure avant la brune. Je serai prêt. » Quand Mardoquet sut que j'allais à Fiume, il me pria de me charger d'une petite caisse qu'il adressait à un ami avec une lettre qu'il allait écrire. « Je suis bien aise de pouvoir vous rendre ce petit service, » répondis-je. Au dîner, Lia se mit à table avec moi, comme si de rien n'était, m'adressant la parole comme à son ordinaire, me demandant si je trouvais bon ceci, si cela était de mon goût. Sans que mes réponses monosyllabiques la déconcertassent en rien, et sans que jamais mes regards puissent rencontrer les siens. Dans ce moment-là, je n'éprouvais pour elle que de la haine, car elle m'avait trompé en m'enflammant, et elle m'avait offensé en me disant crûment qu'elle ne m'aimait pas. En buvant du scopolo, elle me dit que j'en avais encore quelques bouteilles, ainsi que du muscat. « Je vous en fais présent, » lui répliquai-je, « cela servira à vous préparer pour vos débauches nocturnes. » Elle reprit en souriant que j'avais joui gratis d'un spectacle qu'assurément j'aurais payé de plusieurs pièces d'or, qu'elle en était satisfaite, et que si je ne partais pas si vite, ajouta-t-elle, elle me l'aurait volontiers procuré de nouveau. Cette effronterie me fit venir l'envie de lui casser sur la figure la carafe qui était devant moi. À la manière dont je la saisis, elle dut s'apercevoir de mon dessein, et j'allais commettre un crime honteux si je n'avais pas lu dans sa contenance l'expression tranquille et courageuse du défi. Je me contentai de lui dire qu'elle était la plus effrontée coquine que j'eusse jamais rencontrée, et je versai du vin dans mon verre, de la manière la plus gauche, et comme si je n'avais pris la bouteille que pour cela. Après cette scène, je me levai et m'en allai dans ma seconde chambre, n'en pouvant plus. Néanmoins, une demi-heure après, elle vint prendre le café avec moi. Cette persistance me paraissait souverainement insultante, mais je me calmai en réfléchissant que de sa part, ce procédé devait venir d'un esprit de vengeance. Elle s'était cependant assez vengée en me disant qu'elle ne m'aimait pas et en me le prouvant. « Je peux vous aider, me dit-elle, à faire vos paquets. » Et moi, lui répondis-je froidement, « je vous prie de me laisser tranquille. » Et la prenant par le bras, je la fis sortir et fermai la porte sur elle. Nous avions raison tous les deux. Lia m'avait trompé, humilié. J'avais raison de l'aborder. Elle s'était révélée à moi, fausse et hypocrite, fourbe et impudique au suprême degré. Elle avait raison de me haïr, et je crois qu'elle n'aurait pas été fâchée que je commisse sur elle quelques crimes pour que j'eusse à me repentir de ma découverte. Je ne me suis jamais trouvé dans un plus grand état de violence. Nous partîmes par un bon vent, et dès lors je crus ne plus me retrouver en face de Lia. On va voir que le sort en avait décidé autrement. Nous avions fait 20 milles par un bon vent arrière, qui nous faisait glisser sur les ondes sans autre mouvement que le tangage, sorte de balancement de l'avant à l'arrière et qui n'a rien de désagréable, quand tout à coup un calme plat sembla nous clouer à l'endroit où nous étions. Ces brusques changements ne sont pas rares dans l'Adriatique et surtout dans les parages où nous nous trouvions. Ce calme fut de courte durée, et un fort vent d'ouest-nord-ouest ayant soulevé les vagues, la mer devint très houleuse, et notre petite péote, qui était presque vide, commença à sauter d'une façon cruelle qui me rendit très malade. À minuit, le vent, tout à fait contraire, était devenu si fort que nous courions les plus grands dangers. Le patron me dit que le seul parti qu'il put prendre, pour éviter de chavirer, était de céder à l'impulsion du vent et de retourner à Ancône, car nous ne pouvions nous hasarder de porter le cap sur aucun port de l'Istrie. En moins de 3 heures, nous rentrâmes heureusement dans le port d'Ancône, où l'officier de garde, nous ayant reconnus, eut la complaisance de me laisser descendre. Tandis que je parlais à l'officier, le remerciant de ce qu'il voulait bien me permettre d'aller me refaire dans un bon lit, les matelots s'emparèrent de mes effets et, sans prendre mes ordres, ils les portèrent chez Mardoquet. J'en fus fâché car, voulant éviter de revoir Lia, mon intention était de descendre à la prochaine auberge. Enfin, c'était fait. Mon juif se leva et, tout joyeux, se félicita du bonheur de me revoir. Je dormis 10 heures d'un seul trait, quoique je me sentisse moulu, mais en me réveillant, me sentant bon appétit, je sonnai. La servante, ayant répondu à mon appel, me dit en entrant qu'elle aurait l'honneur de me servir, car Lia était couchée, ayant depuis la veille un violent mal de tête. Je ne répondis rien, remerciant intérieurement la Providence de ce que par là je serais délivré de cette dangereuse effrontée. Ayant trouvé mon dîner exquis et me sentant beaucoup mieux après avoir mangé, je dis à la cuisinière de me faire un bon souper. N'ayant point vu Lia à l'heure du souper, comme je le craignais, je crus qu'elle ne viendrait plus, et me figurant qu'elle n'avait qu'une maladie de commande pour éviter de me revoir, je lui en sucrai, et je me sentais pour cela moins irrité contre elle. Cependant, mes conjectures n'avaient rien de réel. Le lendemain, elle vint, à son ordinaire, me demander du chocolat pour me préparer mon déjeuner. Mais elle ne portait sur ses traits ni l'air du contentement, ni cette apparence de tranquillité qui lui était si naturelle, ou qu'il savait si bien affecter. « Je prendrai du café, mademoiselle, et ne voulant plus manger du foie d'oie, je mangerai seul. Vous pouvez en conséquence prévenir votre père que je ne lui paierai que 7 paoli par jour. De plus, je ne boirai dorénavant que du vin d'Orviette. Vous avez encore 4 bouteilles de Scopolo et de Chypre. Je ne reprends jamais ce que j'ai donné. Elles vous appartiennent. Vous me ferez plaisir de vous en aller et de ne venir dans ma chambre que le moins possible, car vos sentiments et vos propos sont faits pour pousser à bout la patience d'un Socrate, et je ne le suis pas. Ajoutez à cela que votre présence me révolte. Vos dehors n'ont plus la vertu de fasciner ma vue, et votre beau corps ne saurait m'empêcher de penser qu'il renferme l'âme d'un monstre. Soyez bien persuadé aussi que les matelots ont porté mes effets ici sans mon consentement. Sinon, vous ne m'auriez jamais revu chez vous, où je meurs de crainte d'être empoisonné. Lia sortit sans me répondre, et je crus certain qu'après cette allocution peu flatteuse, elle se garderait bien de se remontrer. L'expérience m'avait appris que les filles du caractère de Lia n'étaient pas rares. J'en avais connu à Spa, à Gênes, à Londres et même à Venise. Mais cette Israélite surpassait tout ce que j'avais connu jusqu'alors dans ce genre. C'était un samedi. Mardoquet, à son retour de la synagogue, vint me demander d'un air gai pourquoi j'avais mortifié sa fille qui lui avait juré de ne m'avoir donné aucun sujet de me plaindre d'elle. « Je ne l'ai point mortifié, mon cher Mardoquet, ou au moins, telle n'a pas été mon intention. Mais ayant besoin de vivre de régime, je lui ai dit que je ne voulais plus de foie d'oie, et la conséquence en est que je puis manger seul et épargner 3 paoli par jour. Lia est prête à me les payer de sa bourse, et elle veut dîner avec vous, pour vous prouver que vous ne devez avoir aucune crainte d'être empoisonné, car elle me dit que vous aviez cette crainte. C'est une plaisanterie que vous ne devez point prendre au sérieux, car je sais fort bien que je suis chez un honnête homme. Mais votre fille est une sotte, à force d'avoir de l'esprit. Je n'ai besoin ni qu'elle paye 3 paoli, ni faire cette économie, et pour vous en convaincre, j'en paierai 6. Mais la condition que vous mangiez aussi avec moi. Avoir offert de payer 3 paoli pour moi est une impertinence. En un mot, mon cher, ou je mangerai seul, ou je vous paierai 7 paoli par jour, ou j'en paierai 13 en mangeant avec le père et la fille. C'est mon dernier mot. » Mardoquet, bon apôtre, s'en alla en me disant qu'il n'avait pas le courage de me laisser manger seul. M'étant levé pour dîner, je ne parlais qu'à Mardoquet, sans jamais regarder Lia, sans rire des seilles spirituelles qu'elle lançait de temps en temps pour attirer mon attention. Je ne bus que du vin d'Orviade. Au dessert, Lia, ayant rempli mon verre de vin de Scopolo, me dit que si je n'en buvais pas, elle n'en boirait pas non plus. Je lui répondis, sans la regarder, que si elle était sage, elle ne boirait jamais que de l'eau, et que je ne voulais rien recevoir de ses mains. Mardoquet, qui aimait le vin, se mit à rire, dit que j'avais raison et but pour 3. Le temps était mauvais. Je passai le reste de la journée à écrire, et après avoir soupé, servi par la servante, je me couchai et m'endormis. J'étais dans mon premier sommeil quand je fus réveillé par un léger bruit. « Qui est là ? » dis-je. J'entendais Lia qui me dit à voix basse : « C'est moi. Je ne viens pas pour vous inquiéter, mais pour me justifier. Accordez-moi une demi-heure d'entretien. » En disant cela, elle se coucha près de moi, mais sur la couverture. Cette visite, si inattendue, et qui me semblait si peu en harmonie avec le caractère de cette singulière fille, me fit plaisir. Car, ne me sentant animé pour elle que d'un sentiment de vengeance, je me croyais certain de ne point succomber à tous les artifices que sa ruse pourrait mettre en jeu pour remporter une victoire qu'elle devait chercher pour se venger de ma froideur. Bien loin de la brusquer, je lui déclarai avec douceur que je la tenais pour justifiée, et qu'ayant besoin de repos, je la priai de s'en aller. « Je ne me retirerai que quand vous m'aurez entendu. Parlez donc, je vous écoute. » Alors elle commença un discours que je n'interrompis pas un instant et qui dura une bonne demi-heure. Soit artifice, soit sentiment, soit pouvoir d'une éloquence accompagnée d'une voix délicieuse, ce discours était fait pour me persuader. Après avoir confessé tous ses torts, elle prétendait qu'à mon âge et avec mon expérience, je devais tout pardonner à une jeune fille de 18 ans qui, poussée par un tempérament ardent et une irritation irrésistible vers les jouissances de l'amour, se trouvait hors d'état d'écouter la voix de la raison. Selon elle, je devais tout excuser de sa faiblesse fatale, même les scélératesses, parce que si elle parvenait à se rendre coupable, c'était parce qu'elle n'était point maîtresse d'elle-même. « Je vous jure que je vous aime, me dit-elle, et je vous en aurais donné les marques les moins équivoques. Si je n'avais le malheur d'être amoureuse d'un jeune chrétien, celui que vous avez vu avec moi, qui n'est qu'un gueux, un libertin qui ne m'aime pas et que je paye. Malgré mon amour et mon ardente passion, ajouta-t-elle, je ne lui ai jamais accordé ce qu'une fille ne peut perdre qu'une fois. Il y avait 6 mois que je ne l'avais vue, et vous êtes la cause que je l'ai fait venir cette nuit-là, car vous aviez mis mon corps en flamme avec vos estampes et vos vins de liqueur. » La conclusion de toute cette apologie fut que je devais remettre la paix dans son cœur en oubliant tout et en lui rendant toute mon affection pendant le trop de jours que j'avais encore à rester chez elle. Quand elle eut cessé de parler, je ne me permis pas la plus légère objection. Je me contentai de faire semblant d'être convaincu, l'assurant que je reconnaissais avoir eu tort de lui laisser voir les figures lascives de l'arétin, que je la plaignais d'avoir le malheur de ne pouvoir résister à la force de son tempérament. Et je finis en lui promettant qu'elle ne verrait plus dans mon maintien aucun indice de ressentiment. Comme cette explication de ma part ne finissait pas comme la friponne voulait, elle continua à me parler de la faiblesse des sens, de l'amour-propre, qui met souvent des entraves aux plus tendres penchants de l'amour, force un cœur à n'agir que contre ses plus chers intérêts, etc., etc., car elle entendait me persuader qu'elle m'aimait et qu'elle ne m'avait refusé que pour rendre mon amour plus fort et captiver mon estime. Dès qu'elle fut partie, je me félicitai qu'elle n'eût fait aucune tentative que verbale, car dans l'état où elle m'avait mis, je doutais qu'elle remportât une victoire complète, bien que nous fussions sans lumière, car en pareil cas, l'excès du désir des sens rend l'homme extrêmement faible. Je ne dois pas oublier de dire qu'avant de me quitter, je dus lui promettre que je lui laisserais faire mon chocolat comme par le passé. Le lendemain, de très bonne heure, elle vint en prendre un bâton. Elle était dans le plus complet négligé et marchait sur la pointe des pieds, comme si elle craignait de me réveiller, tandis que si elle avait tourné les yeux vers mon lit, elle aurait pu s'apercevoir que je ne dormais pas. La voyant toujours fausse et artificieuse, je me promis de nouveau de déjouer ses ruses et de lui laisser faire tout le chemin sans l'aider d'aucune façon. Quand elle m'apporta mon chocolat, voyant 2 tasses sur le plateau, je lui dis « Il n'est donc pas vrai que vous n'aimez pas le chocolat ? Je me crois obligé de vous délivrer de toute crainte d'empoisonnement. » Ce que je trouvais fort significatif aussi, ce fut de l'avoir vêtue en robe, la gorge couverte, tandis qu'une demi-heure auparavant, elle était venue en chemise et jupon, ayant la gorge parfaitement nue. Plus je la voyais déterminée à me dompter avec ses appâts, plus je me fortifiais dans la résolution de l'humilier par l'indifférence. Malgré ma force, Lia commença à me séduire de nouveau à table, car contre mon ordre, elle fit servir un magnifique foie-d'oie, me disant que c'était pour elle seule, et que si elle était empoisonnée, elle mourrait avec plaisir. Mardoquet, alléché par la friandise, dit qu'il voulait mourir aussi, et se mit à se régaler d'importance. Ne pouvant m'empêcher de rire, « Nous mourrons tous trois, » dis-je. Je me mis à le savourer aussi. Vos résolutions, dit Lia, ne sont pas assez puissantes pour résister à la séduction. Cette remarque me piqua, et je lui répondis qu'en se découvrant trop, elle montrait moins de prudence que d'esprit, et qu'elle verrait que j'aurais assez de force pour défier l'occasion. J'appelai la servante et l'envoyai chez le consul de Venise pour chercher du scopolo et du muscat. Léa, qui ne pouvait plus se contenir, me piqua de nouveau en disant avec enthousiasme « J'aime à convenir que vous êtes le plus aimable des hommes. » Mardoquet, qui ne comprenait rien au sens de nos paroles, buvait et mangeait en riant, se montrant très satisfait. Dans l'après-midi, bravant un temps affreux, je sortis et j'allai au café. Là, réfléchissant à Léa, je me crus certain que dès la nuit prochaine, elle renouvellerait le combat de la nuit précédente, et que selon son caractère, l'assaut serait progressivement plus vif. Voulant ne point succomber et craignant que ma force amoureuse ne me rendît faible, je conçus le dessein d'aller m'affaiblir si je trouvais un objet banal, tant soit peu supportable, pour y déverser le trop-plein de ma vie. Dans ce but, un grec, qui quelques jours auparavant m'avait conduit en un lieu où je n'avais trouvé que le dégoût, me mena dans un autre où une grecque toute fardée et mal fagotée m'inspira une répugnance qui me fit fuir au premier aspect. Dépité que dans une ville comme Ancône, un homme un peu délicat ne puisse satisfaire, d'une manière passable, un besoin impérieux au prix de sa bourse, je pris le parti de rentrer au logis, où, après avoir soupé seul, comme toujours, je me résolus à m'enfermer, ce que je n'avais fait que deux fois jusqu'alors. Peu d'instants après, Léa vint frapper à ma porte, sous prétexte que j'avais oublié de lui donner du chocolat. J'ouvris, et en prenant le chocolat, elle me pria de laisser ma porte ouverte. « Je vais vous dire des choses importantes, et ce sera pour la dernière fois. »« Vous pouvez me dire actuellement ce que vous voulez ?»« Non, car c'est un peu long, et je ne viendrai que lorsque tout le monde sera endormi. »« Mais n'ayez rien à craindre, car vous êtes maître de vous-même. »« Vous pouvez vous coucher tranquillement, puisque je ne suis plus pour vous un être dangereux. »« Non, assurément, point dangereux. » Et pour vous le prouver, ma porte restera ouverte. » Me sentant plus que jamais déterminé à braver tous ces artifices, je crus ne pas devoir souffler mes bougies, car en les éteignant, j'eus peur de lui laisser soupçonner un sentiment de crainte. D'ailleurs, la lumière devait rendre mon triomphe plus parfait et son humiliation plus complète. Je me couchai. À 11 heures, un petit bruit m'annonce l'instant du combat. Je vois entrer Léa n'ayant que sa chemise et un mince jupon. Elle ferme doucement ma porte au verrou, et quand je l'apostrophe de l'interrogation, « Eh bien, que voulez-vous me dire ?» Elle entre dans la ruelle, laisse tomber son jupon et sa chemise, et dans la seule parure d'une Vénus sortant du bain, elle soulève légèrement ma couverture et s'étend près de moi. Je suis trop surpris, trop ému pour la repousser. Léa, sûre de son fait, ne proférant pas une syllabe, se jette sur moi, me presse contre son sein, et collant sa bouche sur la mienne, me prive en un instant de toutes mes facultés, moins celle que je m'étais promis de laisser sommeiller. Employant le seul instant de réflexion que me laissaient ces brûlantes caresses, je conviens avec moi-même que je n'étais qu'un sot présomptueux, que Léa a foncièrement de l'esprit, et qu'elle connaît la nature humaine infiniment mieux que moi. À l'instant, mes caresses deviennent aussi fougueuses que les siennes, et tout en dévorant ces deux globes d'albâtre et de rose, je meurs à l'entrée du sanctuaire de l'amour, qu'à ma grande surprise, je trouvais intact, et persuadé que je ne pourrais y pénétrer qu'avec effraction. Après un instant de silence, je lui dis « Chère Léa, tu me forces à t'adorer. Comment as-tu pu vouloir que je te haïsse? Serait-il possible que tu ne fusses venue te jeter dans mes bras que pour m'humilier et pour obtenir une vaine et futile victoire? Si c'est là ton idée, je te pardonne, mais tu as tort. Car la jouissance, crois-moi, est 1000 fois plus délicieuse que le plaisir que tu peux retirer de ta vengeance. Non, mon ami, je ne suis ici ni pour triompher, ni pour me venger, ni pour obtenir une honteuse victoire. Je n'y suis que pour me donner tout à toi autant que je le puis, pour te rendre mon vainqueur et mon maître sans réserve. Rends-moi tout à fait heureuse. Brise cette barrière que jusqu'à ce moment j'ai conservée intacte, malgré sa faiblesse et en dépit de mon ardeur. Et si le sacrifice que je te fais te laisse encore douter de la sincérité de ma tendresse, je pourrais te considérer comme le plus méchant des hommes. » Je n'avais jamais rien entendu de plus énergique, jamais rien vu de plus voluptueux. Je me mis à l'œuvre, et douce comme un agneau, m'aidant de son mieux à la besogne. Je forçai le ressort, et je pus contempler sur les beaux traits de Léa les symptômes extraordinaires du mélange d'une douleur aiguë et d'une jouissance complète. Je sentis, dans la première extase, le tremblement général convulsif de la volupté dont tous ses sens étaient inondés. Quant à moi, le plaisir qui fut mon partage me sembla tout nouveau. J'avais retrouvé ma sève de 20 ans, mais j'avais la prudente délicatesse de mon âge. Je résolus de ne laisser parvenir ma jouissance à son comble que lorsqu'il ne me serait plus permis de l'empêcher, et je me ménageai en épargnant Léa, que je tins collée contre moi jusqu'à 3 heures du matin. Quand je la laissais, elle était fondue d'épuisement, et moi je n'en pouvais plus. elle me quitta pleine de reconnaissance en portant les linges inondés du sacrifice et je dormis tout d'un trait jusqu'à midi. Quand, à mon réveil, je la vis paraître à mes yeux avec cet air de douce satisfaction amoureuse d'un lendemain de noces, l'idée de mon prochain départ m'attrista. Je le lui dis, et il me dit de le différer autant que possible. Je lui déclarai que nous arrangerions cela la nuit prochaine. Nous dînâmes voluptueusement. Mardoqué, étant devenu mon commensal, se piquait de me convaincre qu'il n'était pas avare. Je passai l'après-midi chez le consul et j'arrangeai mon départ sur un vaisseau de guerre napolitain qui était en quarantaine et qui ensuite devait se rendre à Trieste. Cet arrangement, m'obligeant de passer à Ancône encore un mois entier, je bénis la tempête qui m'y avait ramené malgré moi. Mon séjour dans cette ville me coûtait fort cher pour mes ressources d'alors. Mais lorsque j'annonçai à Mardoqué que je resterais chez lui encore un mois, il me déclara positivement qu'il ne voulait plus m'être à charge, et comme on peut le croire, je n'insistais pas. Il ne me restait donc que Lia. J'ai toujours cru, peut-être à tort, que ce juif n'ignorait pas que sa fille m'accordait ses faveurs. Sur cet article, les juifs en général ne sont pas difficiles, car sachant que le fruit qui peut en résulter sera israélite, ils pensent que c'est tromper un chrétien que de le laisser faire. Je ne voulus pas exposer ma chère Lia à se repentir de notre union. Que de marques de reconnaissance, que de preuves de tendresse ne me témoigna-t-elle pas quand je lui dis que je resterais auprès d'elle encore tout un mois? Que de bénédictions au mauvais temps qui m'avaient empêché d'arriver à Fiume. Nous couchâmes ensemble toutes les nuits, même celles pendant lesquelles Moïse excommunie toute femme qui se livre à l'amour. Je laissai à cette charmante fille le petit cœur qui avait causé nos premiers entretiens amoureux et qui pouvait valoir 10 sequins. Mais elle refusa toute récompense pour le soin qu'elle avait pris de mon linge pendant 6 semaines. En outre, elle me força d'accepter de superbes mouchoirs des Indes. À 6 ans de là, j'ai retrouvé cette femme charmante à Pesaro. Je partis d'Ancône le 14 novembre et le 15, je me trouvai logé à la Grande Auberge à Trieste. Ainsi s'achèvent les mémoires de Casanova de Seingalt, écrits par lui-même, dans l'édition de 1826 Leipzig et Brockhaus.